La plupart des conseils sur l'IA qui sont publiés, partagés, mis en favoris et transformés en formation à 2000 euros ont été écrits avec un profil très précis en tête. Et ce profil, ce n'est presque certainement pas vous. La personne pour qui ces conseils ont été écrits a une équipe de développement ou une équipe de croissance, ou au minimum un budget dédié aux expérimentations qui ne sort pas du même compte que le loyer. Cette personne travaille au sein d'une organisation où l'adoption de l'IA est un projet à part entière, avec un sponsor, un calendrier et un canal dédié avec des gens qui y sont assignés. Cette personne optimise pour une échelle que la plupart des prestataires de services n'ont jamais atteinte et dans bien des cas n'ont aucune envie d'atteindre. Alors quand ces conseils atterrissent dans votre fil d'actualité, ils arrivent de travers. Ils ne s'ajustent pas. Vous essayez de les appliquer, ça ne prend pas, et quelque part, dans un coin de votre tête, une petite voix commence à vous demander si le problème vient de vous. Le problème ne vient pas de vous. Ces conseils ont été écrits pour le mauvais lecteur. Dans cet épisode, je veux vous montrer pour qui la conversation dominante autour de l'IA est vraiment construite, pourquoi leur approche ne se transfère pas à une activité comme la vôtre, et les cinq points précis où les conseils pour un prestataire de service doivent être différents. Je vais également vous donner un filtre simple en trois questions que vous pouvez appliquer à n'importe quelle tactique IA avant de perdre une semaine à essayer de la faire entrer dans un cadre qui n'est pas le vôtre. À la fin de cet épisode, vous pourrez lire tout ce que l'écosystème publie sans cette petite voix qui vous dit que vous êtes à la traîne. Merci d'être là. Je suis Makeda Bum. J'ai réalisé près de 10 millions de dollars de ventes dans le secteur tech en 4 ans. J'y ai généré 7 chiffres. Et ici, j'enseigne aux chefs d'entreprise de service comment utiliser l'IA, les automatisations, les systèmes et les agents pour créer plus de revenus, plus de temps et plus d'options. L'IA évolue à une vitesse quotidienne et je vous aide à suivre le rythme. Permettez-moi d'être précise sur ce que j'entends par le mauvais lecteur, parce que ce n'est pas une simple plainte. C'est un décalage structurel avec de vraies conséquences pour de vrais chefs d'entreprise. La plupart des contenus IA à forte visibilité sont produits par l'un de ces trois groupes. Premier groupe, les ingénieurs et praticiens techniques qui sont excellents pour expliquer le fonctionnement des outils, mais dont le cadre de référence par défaut est celui de développeurs qui construisent pour d'autres développeurs. Deuxième groupe, les responsables marketing de grandes entreprises qui disposent déjà d'une infrastructure, d'équipes éditoriales et de processus d'achat où adopter l'IA signifie valider un nouveau prestataire et non décider si l'on peut se permettre de couvrir le coût sur ses revenus personnels. Troisième groupe, les fondateurs de start-up dans l'écosystème du capital risque qui optimisent pour la vélocité de croissance et des indicateurs séduisants pour les investisseurs et qui entretiennent structurellement une relation très différente avec l'argent, le risque et le temps par rapport à quelqu'un qui a construit sa clientèle de zéro sans financement extérieur. Ces trois groupes produisent l'essentiel de ce que vous lisez. Et ces trois groupes ne vous ressemblent pas. Vous êtes prestataire de service. Vous avez des clients. Vous échangez une expertise, une compétence ou du temps contre des revenus, et l'écart entre ce que vous savez et ce que vos clients peuvent faire seuls, c'est votre produit. Vos charges sont essentiellement votre propre travail, vos systèmes, c'est ce que vous avez construit, acheté ou bricolé au fil des années en vous débrouillant. Vous êtes probablement à la fois le responsable CRM, le stratège de contenu, le chef de projet livraison, le comptable et la personne qui pense à renouveler le nom de domaine. Et vous faites tout ça depuis Paris ou depuis Lyon ou depuis Montréal ou depuis Dakar ou depuis n'importe quel endroit qui n'apparaît jamais comme le public cible dans les articles qui circulent. Voilà à quoi ressemble ce décalage en pratique. Un contenu vous dit d'utiliser l'IA pour analyser vos données clients à grande échelle. Vous avez une feuille de calcul et un CRM avec 400 contacts et le conseil suppose un entrepôt de données. Un autre vous dit de construire une base de connaissances interne pour que vos équipes puissent interroger des informations propriétaires. Vous travaillez seul ou à trois et le mot « équipe » ne correspond pas à votre réalité. Un autre vous dit que l'IA réduira votre coût d'acquisition client une fois intégré à votre stack MarTech existant. Votre stack MarTech, c'est un compte kit et un lien de prise de rendez-vous. Ces conseils ne sont pas faux dans l'absolu. Ils sont juste faux pour vous. La version la plus coûteuse de ce problème, ce sont les conseils qui semblent s'appliquer, mais ne le font pas. Quelqu'un vous dit d'utiliser l'IA pour réutiliser votre contenu et présente ça comme « Écrivez un prompt, collez votre article de blog, obtenez un carrousel. » Alors vous le faites. Ça produit quelque chose de générique qui ressemble à tous les autres carrousels du fil, ça ne convertit pas, et vous concluez que le contenu IA ne fonctionne pas. Mais le vrai problème, c'est que ce conseil était construit pour le volume, pas pour la confiance. Une entreprise logicielle qui publie 50 contenus par semaine peut absorber quelques publications creuses parce que l'algorithme récompense le volume et qu'une bonne pièce sur 10 finira par émerger. Un prestataire de service avec une audience réduite et exigeante perd la confiance dès que le contenu sonne comme un modèle générique. Les enjeux sont différents. Les conseils devaient l'être aussi. Laissez-moi donc vous exposer ce qui change réellement quand l'approche est reconstruite spécifiquement pour les prestataires de services. 5 évolutions. La première évolution concerne l'unité de valeur. Dans la plupart des contenus IA destinés aux grandes entreprises, l'unité de valeur, c'est le débit, les sorties par unité de temps, les tickets traités, les emails répondus, les articles générés, les variantes publicitaires testées. Le volume est la victoire. Pour un prestataire de service, l'unité de valeur n'est pas le débit, c'est la confiance. Chaque contenu que vous publiez, chaque point de contact avec un client, soit construit, soit érode, la conviction que vous êtes la personne qu'il vaut la peine d'engager. L'IA utilisée avec une logique de débit peut activement vous nuire en produisant du volume qui sonne creux. L'IA utilisée avec une logique de confiance fait quelque chose d'entièrement différent. Elle vous donne plus de temps pour être précis, plus de temps pour être réfléchi, plus de temps pour vous manifester là où vos clients cherchent, avec une profondeur qu'une usine à contenu généraliste ne peut pas atteindre. Quand j'ai construit la mécanique de contenu derrière cette émission, mon objectif n'a jamais été de publier davantage pour le principe de publier davantage. L'émission que vous écoutez en ce moment sort à raison de 15 épisodes par semaine, 3 épisodes en 5 langues, à partir d'un seul enregistrement. Ce n'est pas une stratégie de volume, c'est l'inverse. C'est de la profondeur, maintenue à un rythme qui m'aurait épuisé si je l'avais fait à la main. De la portée sans l'épuisement. C'est un objectif de prestataire de service Et c'est un objectif très différent du débit. La deuxième évolution concerne le contexte. La plupart des conseils sur les outils traitent le modèle de façon isolée. Vous collez du texte, vous obtenez du texte en retour, et les conseils portent entièrement sur le prompt. Écrivez un meilleur prompt, obtenez un meilleur résultat, c'est bien dans une certaine mesure, mais ça passe à côté du geste le plus puissant disponible pour un prestataire de service, qui est de charger le modèle avec tout ce dont il a besoin pour cesser d'être générique. Votre positionnement, les profils de vos clients, votre voix, votre méthodologie, les secteurs que vous servez, les objections que vous entendez, le langage exact qu'un client utilise quand il est prêt à acheter. Quand un modèle porte tout ça, il cesse d'être une intelligence générale, produisant des résultats moyens, et commence à se comporter comme un collaborateur qui connaît votre activité. La plupart des contenus IA vous apprennent à manier un marteau. Le vrai travail, c'est de construire l'atelier. J'ai présenté cette construction du cerveau d'entreprise dans cette émission auparavant, et l'essentiel du propos est simple. Le contexte transforme la capacité. Un modèle chargé de votre contexte complet n'est pas le même outil qu'un modèle qui en est dépourvu. La troisième évolution porte sur la façon de calculer le retour. Les contenus IA d'entreprise sont obsédés par l'arithmétique des effectifs. Combien de postes cela remplace? Combien de salaires cela économise? Mais vous n'avez pas d'effectifs à réduire. Vous avez autre chose. Vous avez un plafond sur votre propre capacité. Donc, le calcul qui compte pour vous n'est pas ce que l'IA retire d'une masse salariale. C'est combien votre activité peut porter de plus sans coût supplémentaire. La même expertise, le même vous, servant plus de clients ou touchant plus de personnes ou récupérant les heures que vous passiez sur des tâches qui n'ont jamais eu besoin de votre jugement. C'est un calcul différent. Et dans la plupart des cas, il produit un chiffre bien plus important que l'arithmétique des effectifs ne l'a jamais fait. Laissez-moi faire une pause pour mentionner quelque chose qui s'inscrit directement dans ce dont nous parlons. Savoir que le calcul est différent est une chose. Savoir quel travail dans votre activité spécifique déléguer en premier en est une autre. J'ai construit un outil gratuit exactement pour ça. Et il s'appelle l'AI Employee Report. Vous répondez à 11 questions sur le fonctionnement concret de votre activité et il vous restitue une feuille de route personnalisée. Le travail précis que l'IA et l'automatisation devraient prendre en charge, dans l'ordre où l'aborder. Cela prend quelques minutes, ça ne vous coûte rien. Et c'est disponible sur audit.seedandsociety.com. La quatrième évolution concerne la géographie. Je veux l'énoncer clairement parce que c'est constamment passé sous silence. L'écosystème dominant des contenus IA est construit presque entièrement sur des présupposés du marché américain. La tarification en dollars. L'accès au marché américain. Une infrastructure qui suppose une connexion Internet rapide et fiable. Des solutions de paiement qui supposent un compte Stripe fonctionnel. Une structure juridique qui suppose des formalités simplifiées. Et des clients qui sont tacitement supposés être locaux et anglophones. Un prestataire de service qui gère une activité de conseil depuis Abidjan, avec des clients à travers l'Afrique francophone et l'Europe, travaille dans un ensemble de contraintes entièrement différents. L'infrastructure de paiement se présente différemment, l'accès aux plateformes est parfois différent, la structure fiscale, le contexte culturel dans lequel la confiance se construit avec un client, parfois même la langue dans laquelle cette confiance se tisse, tout cela se présente différemment. Les conseils IA génériques écrit depuis l'écosystème des startups, ont très peu de choses utiles à dire à cette personne. Et cette personne existe. Cette personne vous écoute en ce moment. Ce que j'essaye de faire dans cette émission, c'est de rester précise sur l'endroit où l'infrastructure est réellement disponible, sur ce que représente le coût réel, en dehors d'une économie en dollars, et sur les endroits où un outil fonctionne partout par rapport aux endroits où il a des limites régionales. C'est un choix délibéré de construire cette émission pour le vrai public plutôt que pour le public supposé. La cinquième évolution concerne la relation entre l'IA et la livraison client, qui est le cœur de ce que fait une activité de service et qui est presque entièrement absent des conseils IA grand public. Les contenus d'entreprise portent sur les opérations internes, le marketing externe et les produits logiciels. L'IA pour les prestataires de services doit porter sur quelque chose de plus particulier. Comment vous utilisez l'IA pour délivrer un meilleur résultat à un client sans que l'expérience ne semble jamais automatisée? Comment vous l'utilisez pour préparer un entretien client afin d'y arriver plus affûté? Comment vous l'utilisez pour formaliser votre méthodologie propre afin qu'elle puisse être reproduite sans que vous deviez superviser chaque étape? Comment vous utilisez des agents pour gérer l'échafaudage opérationnel autour de la livraison afin que votre temps réel avec le client soit protégé? Rien de tout ça n'est dans les articles partagés cette semaine. Les articles partagés cette semaine parlent de chatbots, de pipelines de contenu et de savoir si ChatGPT ou Claude rédigent un meilleur email. Ce sont de vraies questions. Ce ne sont simplement pas les questions qui débloquent le levier pour un prestataire de service. Rendons cela concret, parce que l'abstraction n'a qu'une portée limitée. Une consultante basée à Lyon travaille avec des PME sur la stratégie opérationnelle. Elle accompagne des clients sur plusieurs fuseaux horaires. Son goulot d'étranglement n'est pas de trouver des clients. Son goulot d'étranglement, c'est que chaque nouvelle mission commence par un processus de diagnostic qui lui coûte 12 à 15 heures de son propre temps. Recherche sectorielle, analyse concurrentielle, documentation des processus internes, analyse des écarts, première recommandation. Ce travail de diagnostic, c'est précisément ce qu'elle vend. C'est aussi ce qui la maintient plafonnée à 3 ou 4 clients simultanément. Les conseils IA, grand public, appliqués à sa situation, lui diraient de rédiger son contenu marketing plus vite, de générer des publications sur les réseaux ou de résumer des documents. Rien de tout ça ne touche son vrai goulot d'étranglement. Ce qui transforme son activité, c'est la construction d'un agent de diagnostic, un système où elle saisit le nom du client, son secteur, la problématique exprimée et les documents partagés, et le système mène la recherche, structure l'analyse des écarts, ébauche les premières hypothèses et fait remonter les questions dont elle a besoin pour le premier entretien. 15 heures deviennent 2 heures de revue et d'affinement sur ce que le système a produit. Elle passe de 3 clients actifs à 7. Ses revenus ne progressent pas légèrement. Ils font plus que doubler. La même expertise, le même positionnement, les mêmes résultats pour les clients. Une capacité opérationnelle différente. C'est ça l'histoire de l'IA pour les prestataires de services. Et elle est presque absente des contenus grand public, parce que ces contenus résolvent un type de problème différent pour un type d'activité différent. Je veux être honnête, une partie de ce qui est disponible est genuinement utile, même quand c'est destiné à un autre lecteur. La formation technique de fond, le fonctionnement des modèles, ce qu'est une fenêtre de contexte, en quoi un agent diffère d'un simple prompt mérite d'être comprise, quel que soit votre type d'activité. Je ne vous dis pas d'ignorer l'écosystème au sens large. Je vous dis de le lire en sachant que vous devrez traduire. Le principe est généralement solide. L'application doit être reconstruite pour votre contexte. Voilà à quoi ressemble cette traduction en pratique. 3 questions chaque fois que vous rencontrez une nouvelle stratégie IA. Premièrement, quel problème ceci a-t-il été conçu à résoudre et est-ce que j'ai réellement ce problème? Deuxièmement, qu'est-ce que cela suppose sur mon infrastructure, la taille de mon équipe et mon budget qui pourrait ne pas être exact? Troisièmement, si la logique centrale est juste, à quoi ressemble concrètement la version conçue pour un prestataire de services de ma taille? Ces 3 questions vous feront économiser une quantité considérable de temps et d'argent en évitant de courir après des tactiques qui n'ont jamais été conçues pour votre environnement opérationnel. Cette émission existe parce que je continuais à appliquer ces 3 questions et à ne pas trouver les réponses dont j'avais besoin dans les contenus déjà disponibles. Je viens de la vente tech en entreprise, donc je comprends ce monde, comment il pense, ce qu'il optimise et où ses conseils s'appliquent genuinement à un opérateur plus petit et où ils ne le font pas silencieusement. Et l'écart entre ce que l'écosystème dominant enseigne et ce dont un prestataire de service a réellement besoin reste, selon mon évaluation, honnête, l'un des fossés les moins comblés de la formation en IA. Vous méritez une approche construite pour votre situation réelle, pas adaptée de celle de quelqu'un d'autre, pas traduite de grande entreprise à petite structure comme une réflexion après coup, construite de zéro pour quelqu'un qui a des clients, une vraie expertise, qui fait probablement cela depuis un endroit qui n'est pas la Silicon Valley et qui essaie de construire quelque chose qui crée plus de revenus, plus de temps et plus d'options, sans recruter une équipe qu'il ne peut pas encore rémunérer correctement. C'est ce que cette émission est construite pour être. Et c'est l'exigence à laquelle je tiens chaque épisode. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, rejoignez ma newsletter gratuite. Chaque semaine, j'envoie des analyses pratiques, des guides étape par étape et des listes actualisées de subventions et d'opportunités de prise de parole directement chez vous. Rendez-vous sur newsletter.seedandsociety.com et inscrivez votre nom. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et notez et commentez là où vous écoutez. C'est ce qui permet à cette émission d'atteindre plus de personnes et cela fait genuinement la différence. À la prochaine! Continuez à planter les graines d'une société meilleure.